L'écho d'ici, l'écho d'ailleurs. Jean-Pierre Boris, Victor Ouvrard.
Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition d'Écho d'ici, Écho d'ailleurs, l'émission qui démonte les rouages de l'économie mondiale. Le nerf de la guerre en matière économique, vous le savez, c'est l'argent, l'argent dont les riches disposent à volonté, mais depuis 40 ans, des esprits inventifs et généreux se sont attelés à mettre de l'argent à disposition des plus modestes. Ces Don Quichotte des temps modernes ont mis au point un mécanisme financier d'un nouveau genre, le microcrédit. L'idée est belle et simple, prêter quelques pièces, quelques billets à quelqu'un de très pauvre pour lui permettre de créer son activité économique. L'inventeur de cette formule est célèbre, Mohamed Yunus est un économiste du Bangladesh auquel son invention a valu le prix Nobel de la paix en 2006, il y a 10 ans. « J'aimerais qu'un jour on m'appelle le banquier des anciens pauvres », dit Mohamed Yunus. Alors est-ce qu'il mérite aujourd'hui ce surnom ? Le microcrédit a-t-il sorti beaucoup de monde de la misère ? A-t-il favorisé le développement économique à une plus grande échelle ? Est-ce une activité rentable pour ses promoteurs ? Ou le microcrédit ne sert-il finalement pas plus l'intérêt du monde financier et bancaire que celui des pauvres ? Telles sont les questions que je vais poser aux trois invités que je vous présente maintenant. Bonjour Philippe Guichandu.
Bonjour.
Philippe Guichandu, vous êtes le directeur de la microfinance et de la communication pour la fondation Gramine Crédit Agricole. Crédit Agricole, une des grandes banques françaises. Qu'est-ce que c'est que cette fondation Gramine ?
C'est une fondation qui a été créée en 2008 à l'initiative à la fois donc du groupe Crédit Agricole et de la Gramine Trust au Bangladesh pour participer à la lutte contre effectivement la pauvreté et l'inclusion financière à travers des outils qui sont des investissements que nous faisons auprès d'institutions de microfinance et d'entreprises sociales. On intervient aujourd'hui dans 25 pays auprès de 60 partenaires dans le monde, essentiellement en Afrique et en Asie, Asie centrale.
Mais alors, comment marier ce poste de directeur de la microfinance, qui doit être quelque chose d'assez technique, et directeur de la communication ? Est-ce que ça ne dit pas que cette microfinance est surtout de la communication et donc un effet d'image, d'aubaine recherché par le Crédit Agricole ?
On m'avait jamais présenté mon poste de cette manière. Non, on va être assez clair. La fondation, c'est 20 personnes. Voilà, donc on n'a pas pu avoir effectivement un département, on va dire, spécifique lié à la communication. Et donc, effectivement, en tant que responsable du microcrédit, je m'occupe aussi de la microfinance et je m'occupe aussi de la communication. Mais c'est pas du tout, on n'est pas du tout dans la communication. D'ailleurs, je pense que la fondation Gramine Crédit Agricole est relativement peu connue, pour pas dire quasiment pas connue du grand public.
Depuis quelques minutes, elle l'est.
Elle est, grâce à vous, et on vous en remercie. Mais voilà, donc je pense que non, ce serait un procès un peu rapide de dire qu'on est là que pour faire de la communication, bien au contraire.
Alors, passons à vous, Yon Saleh, qui est également dans ce studio à côté de moi. Bonjour.
Bonjour.
Yon Saleh, vous êtes directeur de programme au sein d'un comité qui s'appelle très poétiquement Cerise, Et qui s'occupe d'éthique financière. Qu'est-ce que c'est que ce comité ? Et qu'est-ce qu'il a à voir avec le microcrédit ? Qu'est-ce que la Cerise a à voir avec le microcrédit ?
Alors la Cerise, effectivement, vous l'avez dit, on a un comité à la base d'échanges, de réflexions et d'informations sur les systèmes d'épargne crédit qui a été fondé il y a à peu près 20 ans par des ONG de développement qui souhaitaient mettre en commun en fait leurs pratiques en microfinance sociale. Et c'est ainsi que Cerise est née et aujourd'hui on accompagne des institutions de microfinance qui souhaitent améliorer leurs pratiques et procédures managériales liées à la réalisation de leur mission sociale.
Est-ce que vous accompagnez, par exemple, mon voisin de gauche, Philippe Guichandu ?
Absolument, on travaille régulièrement avec la fondation Gramine Crédit Agricole, aussi bien sur le sujet de la microfinance que sur le sujet de l'entrepreneuriat social.
Alors je termine ce tour de table par vous, Cyril Fouillet, bonjour.
Bonjour.
Cyril Fouillet, vous êtes professeur d'économie à l'ESCA, l'école de management d'Angers. Vous avez beaucoup travaillé depuis plusieurs années sur les questions de microcrédit et microfinance. Et vous êtes l'auteur d'un des articles récemment publiés dans le numéro de la revue Tiers-Monde de janvier-mars 2016. Cette revue publie un dossier intitulé « L'inclusion financière, deux points, aider les exclus ou servir les financiers » avec un point d'interrogation. Alors Cyril Fouillet, qu'est-ce qui a amené l'économiste que vous êtes à vous intéresser au microcrédit ?
Alors, l'histoire est longue, je vais tenter de la résumer le plus rapidement possible. Tout d'abord, elle a commencé avec les co-auteurs de cet article. Isabelle Guérin, qui est aujourd'hui directrice de recherche à l'Institut de recherche pour le développement. Et puis Jean-Michel Servet, professeur d'études à l'Institut d'études pour le développement à Genève. Jean-Michel a été mon directeur de thèse. Isabelle Guérin m'a beaucoup suivi dans mon travail de thèse. Et c'est eux qui m'ont, en cinquième année d'économie, présenté ce qu'était la microfinance. Et à ce moment-là, la microfinance tournait surtout autour de la notion de caution solidaire. Voilà. Une innovation sociale qui permettait de dépasser, en fait, des barrières indépassables jusqu'alors. Lorsque vous souhaitez avoir un crédit, lorsque vous souhaitez avoir de l'argent que vous n'avez pas, on vous demande des garanties. On vous demande d'avoir des cautions. Et là, tout d'un coup, avec la microfinance, en tout cas dans ses premières versions, la caution solidaire permettait de dépasser cette caution que vous ne pouviez pas posséder parfois parce que vous n'aviez pas un immeuble à mettre en gage, vous n'aviez pas une maison, vous n'aviez pas les fonds nécessaires pour garantir un prêt. Et cette innovation sociale m'a beaucoup intéressé sur le départ et je me suis aperçu en allant sur terrain que les choses étaient beaucoup plus complexes.
Alors au cours de cette émission, des reportages bien sûr, comme dans chaque édition, nous irons à Phnom Penh au Cambodge, rejoindre Anne-Laure Poré, à Conakry en Guinée où nous attend Coralie Pierret, et nous entendrons aussi un reportage de Louis-Valentin Lopez auprès d'un entrepreneur installé en France et qui a monté un site de traduction vers les langues africaines. Philippe Guichandu, qu'est-ce que c'est que le microcrédit exactement ?
Alors le microcrédit, c'est permettre l'accès à des personnes qui sont exclues du crédit, d'avoir accès justement au crédit. Je pense que c'est important de remettre ça dans le contexte de la microfinance. Parce que
oui,
je pense
c'est
que,
la question voilà. Que je voulais... Quelle est la différence entre microfinance et microcrédit ?
Alors la microfinance, c'est permettre l'accès aux services financiers au sens large. Et à l'intérieur de la microfinance, vous avez le microcrédit qui est lui l'accès au crédit. Mais dans la microfinance, il y a l'accès à l'épargne, il y a l'accès à l'assurance, il y a l'accès aux services classiques, transfert d'argent. Donc traditionnellement, on verra que les acteurs de la microfinance ont commencé par faire du microcrédit, faciliter l'accès au crédit. Mais aujourd'hui, on voit, et je pense qu'on va en parler, hein, qu'il y a une nécessité d'offrir, comme pour vous, pour n'importe qui, plus que du crédit, un ensemble de services financiers pour permettre aux gens d'être mieux inclus financièrement.
Est-ce que vous êtes l'un et l'autre, Cyril Fouillet, d'accord avec cette définition du microcrédit, de la microfinance ?
Je rajouterais simplement que lorsqu'on présente en fait le microcrédit comme des services financiers dirigés vers les exclus, cela suppose que en fait une grande partie de la population dans le monde n'a pas accès à des services financiers. Alors, ce qui n'est pas le cas du tout. En fait, il y a une distinction entre les services financiers formels et ceux que l'on nomme informels. Les services financiers liés à la microfinance, microassurance, microcrédit, etc., sont régulés, en fait, par des institutions comme les banques centrales. Et elles s'opposent, en tout cas certains les opposent, avec les services financiers informels.
Qui sont, par exemple ?
Qui sont les tontines, les prêteurs sur gage. Les tontines, je ne sais pas s'il faut le définir.
Oui, définissez-le.
Qui peuvent être des groupes. Bon, imaginons dans ce studio, avec vos collègues, vous décidez de mettre un pot commun, de mettre toutes les semaines 50 euros dans un pot commun. Et lorsque vous allez avoir fait le tour de 15 semaines, des 15 personnes qui sont présentes, vous allez décider de remettre le pot commun à l'un d'entre vous. Vous allez tirer au hasard, le faire par plusieurs sortes de choix peuvent être possibles. Et vous allez devoir rembourser ce montant à la caisse collective.
Alors, Philippe Guichandu, le microcrédit, comment est-ce que cela fonctionne exactement ?
Eh bien, les gens ont accès... vous avez des institutions qu'on appelle des institutions de microfinance qui peuvent prendre des formes juridiques très variées. Ça peut être des ONG, ça peut être des coopératives, ça peut être des entreprises qui vont donc permettre à ces gens d'avoir accès à un crédit. En général, c'est des petits montants. Nous, on a les institutions qu'on appuie ont un prêt moyen qui est de l'ordre de 500 euros. Mais ça peut commencer à 50 dollars, 100 dollars. Ça peut monter sur des montants plus élevés. Sur des courtes durées, on est plutôt sur du 3-6 mois, avec aussi ensuite un taux d'intérêt. Et comme ça a été expliqué, en général, il n'y a pas de garantie qui est demandée. Donc, il y a des mécanismes soit de prêt individuel où on peut avoir des cautions qui peuvent venir effectivement. Mais sinon, la grande innovation de la microfinance et du microcrédit, c'était effectivement la caution solidaire, le prêt de groupe, soit des petits groupes de 5-6 personnes, soit des groupes plus larges de 20 personnes à qui on va donc donner cet argent-là pour ensuite être remboursé au prix de 6 mois, 12 mois.
Est-ce que les nouvelles technologies Internet ont amplifié ce phénomène ?
Alors, pas Internet, mais on parle beaucoup aujourd'hui, on a beaucoup d'espoir dans les nouvelles technologies, surtout avec la téléphonie mobile. Hein, il faut savoir, je sais pas si vous avez, j'imagine que certains auditeurs ont entendu parler au Kenya de M-Pesa, hein, qui est un réseau qui s'est énormément développé et qui permet effectivement aujourd'hui de faire des transactions. C'est-à-dire que vous pouvez sur votre téléphone mobile recevoir un prêt, utiliser votre téléphone mobile pour rembourser votre prêt, pour prêter. Et donc ça va avoir un rôle très important pour toucher des gens qui sont assez loin. Dans les zones rurales, par exemple. Et donc ça, c'est effectivement une innovation assez très, très forte.
Yann Salé, est-ce qu'on sait combien de personnes bénéficient du microcrédit à l'heure actuelle dans le monde ?
Alors, c'est une bonne question. C'est une question qui est assez difficile à répondre puisque on ne sait pas exactement le nombre d'institutions de microfinance qui fonctionnent dans le monde, parce qu'il y en a énormément qui sont très petites et informelles. Et même si elles sont censées être formalisées, en réalité, elles sont très peu formalisées. On estime à près à 12 000, 13 000 institutions dans le monde, dont peut-être 1 500 vont déclarer en fait leur existence auprès de plateformes de la microfinance type Mix Market, qui est une plateforme très intéressante où les institutions en fait déclarent tous leurs états financiers. Donc c'est quelque chose d'assez exceptionnel, hein, bien évidemment, dans les industries, dans notre système capitaliste, puisque il y a une forme de transparence financière des institutions qui est une sécurité évidemment pour les clients.
Mais quand vous dites il y a une myriade de petites organisations moyenne ou plus grande, qui pratique le microcrédit, ça veut dire que n'importe qui peut, avec quelques amis, décider de pratiquer le microcrédit, Cyril Fouillet ?
C'est toute la complexité de la définition de la microfinance. Si demain, je décide de prêter de l'argent à un ami qui me demande, est-ce que ça intègre la microfinance ? Non, normalement, puisque je ne serai pas régulé par une autorité supérieure. Ce qu'on appelle la microfinance et le microcrédit aujourd'hui représente à peu près, alors même si les données ne sont pas totalement justes, environ 250 millions de personnes qui en bénéficient.
Alors pour voir comment ça fonctionne, pour bien comprendre ce qu'est le microcrédit, on va aller sur le terrain auprès des principaux bénéficiaires. On part en Guinée, au port de Bolbinet, le principal port de pêche de Conakry, où les pêcheurs, dans leur très grande majorité, n'ont pas accès au système bancaire. Ils sont exclus du système financier, comme on dit souvent. Quelques-uns ont malgré tout réussi à obtenir un microcrédit, des pêcheurs aux fumeuses de poissons. C'est un reportage Écho d'ici Écho d'ailleurs, signé Coralie Pierret. À Conakry.
Il y a bon poisson. Au port de Bolbinet, vendeurs, transporteurs, pêcheurs, collecteurs se bousculent. Ibrahima revient de la pêche. Il y a une dizaine d'années, il emprunte pour la première fois à un organisme de microcrédit. Depuis, ses revenus ont nettement augmenté.
Avant, j'étais transporteur de poissons. Les gens se moquaient de moi parce que je n'avais rien. Après un certain temps, il y a un élève qui m'a dit qu'il y a un groupement qui est formé. Et dans ce groupement, on nous a envoyé des moteurs hors bord. En 6 mois, j'ai pu rembourser mon crédit. Et on m'a renouvelé. C'est comme ça que j'ai progressé. Et j'ai eu 2 barques qui emploient 30 personnes par barque.
De ces grandes barques sont débarqués des kilos de poissons collectés et négociés par Mariam.
Depuis que nous avons accès au crédit, nous avons un fonds, des espèces à disposition, ce qui nous permet d'acheter et de négocier plus facilement le poisson avec les pêcheurs. On gagne plus d'argent maintenant.
À quelques mètres du débarcadère, au stand de fumage de poissons, Mariam vient vendre sa marchandise à Kadiatou, cette mère de famille qui, elle, n'a pas eu la possibilité d'emprunter.
Il y a des personnes qui ont des millions en crédit. Nous, nous n'avons pas de relation avec l'organisme. Et donc, c'est impossible d'en avoir. Mais nous aussi, nous voulons faire fructifier notre activité en obtenant des crédits.
Mais selon Maurice Mansaré, responsable d'une agence de microfinance, le Crédit Rural de Guinée, impossible d'accorder un prêt à tous. Il faut des garanties.
Nous travaillons avec la population démunie. C'est des tout petits crédits adapté à leurs besoins, qui peut rembourser sans difficulté. Mais avant de donner des crédits, il y a bien sûr des préalables. Ces garanties sont de 3 ordres, garantie matérielle, garantie financière et garantie morale.
Le secteur de la pêche artisanale représente environ 15% des clients du Crédit Rural de Guinée. Selon les données de la Banque centrale fin 2011, les 13 principales institutions de microcrédit servaient 290 000 bénéficiaires. des bénéficiaires essentiellement basés en zone rurale qui exercent des activités agricoles.
C'était un reportage signé Coralie Pierret à Conakry. Est-ce que, Philippe Guichandu, à vos yeux, c'était une bonne illustration des mérites du microcrédit ?
Je crois qu'on a, pu... Alors d'abord, il faut savoir que je tiens à souligner que le Crédit Rural de Guinée a eu un prix l'année dernière. Par rapport
dont on entendait un des dirigeants,
voilà, par rapport à notamment tout le travail qu'ils ont fait quand il y a eu Ebola et tout le travail de prévention qu'ils ont pu faire, et le prix a été décerné par le European Microfinance Platform au Luxembourg en soulignant justement le fait qu'ils ont réussi à éviter certaines personnes d'être touchées, voire de mourir grâce à leur activité de prévention. Alors ensuite, je trouve ce qui est intéressant dans le reportage, c'est qu'on voit effectivement ce qu'on va dire, que effectivement la dimension vertueuse du microcrédit qui permet vraiment aux gens d'arriver à progressivement améliorer leurs revenus quand il est correctement utilisé. Et ça, j'insiste beaucoup sur cette dimension-là.
Du correctement utilisé, c'est-à-dire
quand le crédit est effectivement utilisé pour financer une activité génératrice de revenus, hein, à savoir la capacité ou une petite entreprise qui va donc permettre effectivement de générer des fonds complémentaires, de pouvoir investir à nouveau et de pouvoir, par ce biais-là, avoir, soit on l'a entendu, et il a pu acheter d'autres barques, etc., commencer à employer du personnel, etc. Donc ça, je pense que c'est vraiment un exemple tout à fait positif, mais qui nécessite aussi un accompagnement, un encadrement particulier, tel que peut le faire le Crédit Rural de Guinée.
Mais Cyril Fouillet, est-ce qu'il arrive que les fonds distribués par le microcrédit soient utilisés à d'autres choses que ce pour quoi ils étaient distribués ?
Bien entendu. La fongibilité de la monnaie ne fait que nous ne pouvons pas être certains, enfin, en tout cas les opérateurs de microfinance ne peuvent pas être certains que lorsqu'ils donnent un crédit, que celui-ci soit bien utilisé pour ce qu'il était prétendu être. Par exemple, si une personne s'engage à construire... ou à utiliser l'argent qu'elle va emprunter pour acheter un moteur pour son bateau. Rien ne l'oblige à acheter un moteur pour son bateau lorsqu'elle obtiendra son crédit. Et c'est toute la difficulté au-delà de la microfinance, c'est que là, vous disiez, lorsque le microcrédit et la microfinance sont bien utilisés, mais dans de nombreux cas, on voit quand même des limites très très fortes à ça. Et certains grands acteurs de la microfinance, comme Vijay Mahajan, qui sont aujourd'hui en fait des porte-parole du secteur auprès de la Banque mondiale, le disent eux-mêmes auprès des organisations qu'ils ont créées, notamment en Inde avec Basix, que le microcrédit peut améliorer la situation, sur, en tout cas chez lui, pour 30-40% des clients qui ont pu avoir un microcrédit avec la Basix en Inde, que la situation restait inchangée pour environ 30%, mais que la situation se dégradait pour 30% des clients de la microfinance. Donc, voilà, le problème est ici. Hein, comment définir encore une fois la microfinance, les institutions, comment les réguler, les surveiller, et faire en sorte que le microcrédit respecte les objectifs qu'il avait en tête dès le départ.
Yann Salé, vous êtes un espèce de régulateur dans votre comité Cerise.
Alors, on n'est pas un régulateur au sens effectivement institutionnel de la chose. En revanche, c'est vrai qu'on, nous, on se considère comme des entrepreneurs de normes sociales, c'est-à-dire qu'on travaille en fait avec des opérateurs de terrain afin de définir ensemble des bonnes pratiques managériales liées par exemple à la protection des clients, à la prévention du surendettement. Et derrière, on va promouvoir en fait ces bonnes pratiques à travers des outils qu'on met à disposition des organisations.
Mais par exemple, dans un cas comme celui qu'on vient d'entendre, dans ce reportage guinéen, comment est-ce que vous êtes susceptible d'intervenir ?
Là où c'est intéressant, c'est le cas par exemple de la dame qui n'a pas eu accès au crédit. Évidemment, elle le regrette. En revanche, ce que le manager du Crédit Rural de Guinée a mis en avant, c'est qu'il y avait des procédures qui étaient mises en place, des préalables qu'il a cités. Et en réalité, un agent de crédit a fait une enquête vraisemblablement sur cette dame pour estimer si elle était en mesure de recevoir un crédit et de le rembourser.
Alors on va continuer ce débat dans la deuxième partie de cette émission parce que nous arrivons au terme déjà de la première partie. Nous avons rendez-vous maintenant avec un flash d'actualité et nous nous retrouvons dans quelques minutes.
Écho d'ici, écho d'ailleurs sur RFI.
Appelez-nous.
Écho d'ici, écho d'ailleurs. Jean-Pierre Boris, Victor Ouvrard.
Bienvenue à ceux qui nous rejoignent pour la suite d'Éco d'ici, Éco d'ailleurs. Nous continuons à parler microcrédit avec nos trois invités, Cyril Fouillet, professeur d'économie à l'école de management d'Angers, l'ESCA, Yon Salé, membre du comité Cerise, et Philippe Guichandu, directeur de la microfinance et de la communication à la fondation Gramine Crédit Agricole à Paris. Si, au cours de la première partie, nous avons vu ce qu'était précisément le microcrédit, où il s'était étendu et qui il concernait. Nous avons entendu un reportage instructif sur la situation au Cambodge. Et pour cette deuxième partie, une question centrale. Le microcrédit a-t-il réussi son pari, sortir beaucoup de gens de la pauvreté, ou est-ce un instrument de plus aux mains de ce système financier parfois très décrié? Alors, Cyril Fouillet, c'est à vous que je pose cette première question. Le microcrédit, est-ce une réussite sur le plan de la lutte contre la pauvreté? Vous avez commencé à nous répondre au cours de la première partie en disant que sur 10 personnes bénéficiaires en Inde, une petite partie seulement réussissait à se sortir du piège de la pauvreté. Est-ce que c'est extensible au monde entier, à tous les bénéficiaires du microcrédit?
En restant le plus positif possible, on peut dire que les résultats sont mitigés. Bien entendu qu'il existe des besoins en ressources financières pour capitaliser, hein, lancer des micro-entreprises, etc. Sauf que l'un des mythes de la microfinance est celui de dire que tous les pauvres vont devenir micro-entrepreneurs. Ce n'est pas le cas du tout. Nous avons plein d'exemples où des ONG, des institutions de microfinance ont accompagné, parce que c'était la mode de la microfinance, des programmes d'entrepreneuriat où on se retrouvait avec des dizaines de personnes qui fabriquaient la même chose.
Par exemple ?
On peut penser, je sais pas, à des fabricants de parapluies.
Non, mais donnez-moi un exemple concret.
Dans le sud de l'Inde, notamment, des personnes qui tissent de la corde avec la fibre noix de coco. Et les cordes ne s'écoulaient plus puisque l'offre était bien plus importante que la demande auparavant.
Et donc, ça crée une inflation de produits, d'offres.
Exactement.
Et une baisse des prix.
Une baisse des prix et puis des stocks qui s'accumulent et une difficulté, en fait, pour les personnes qui ont souscrit à ces microcrédits de rembourser leurs prêts. Généralement, comme on était quand même dans une phase d'expansion de la microfinance, et quand je dis phase d'expansion, il faut imaginer des institutions qui, d'une année sur l'autre, passent de 20 000, 70 000, 200 000, 600 000, 1,5 million, et ça en 6 ans.
De bénéficiaires, vous voulez dire?
De bénéficiaires. Bénéficiaires ou clients, plutôt. Parce que on parle d'argent, donc ces personnes-là, lorsqu'elles empruntent un crédit, elles doivent le rembourser.
Et de quelle époque parlez-vous, cette extension très rapide?
Alors, cette extension très rapide a démarré au début des années 2000. Et on peut dire, je pense que tout le monde sera d'accord avec moi autour de la table, qu'on a atteint un pic aux environs 2010 avec une crise qui n'a pas touché tous les pays dans le monde, mais qui a frappé quand même fortement le sud de l'Inde, le Maroc, etc., etc.
Il y a eu une bulle du microcrédit, Philippe Guichandu, comme il y a eu une bulle financière, parce que les dates qu'évoque Cyril Fouillet sont un peu celles de la bulle financière mondiale et puis de la crise qui a suivi.
Alors attention, je pense qu'il faut être très prudent. On ne peut pas lier la crise financière du secteur classique avec la microfinance. Ça n'a vraiment rien à voir. Et on peut même dire que dans ce contexte-là, les institutions de microfinance ont été plutôt très résilientes. Alors ensuite, je pense qu'il faut être aussi assez clair. Il y a eu effectivement des crises, c'est certain, dans certains pays. On parle de l'Inde, mais l'Inde, ça s'est limité à un état, l'Andhra Pradesh, pas du tout ailleurs. Ensuite, dans pas mal d'autres pays, on voit qu'effectivement, le secteur se développe peut-être moins rapidement aujourd'hui. Hein, et effectivement, les taux de croissance qui ont été évoqués sont aujourd'hui des taux qui ont tendance à nous effrayer, hein, nous, en tant qu'investisseurs. Quand on voit un taux de croissance qui est trop fort, on se dit qu'il y a quand même là un souci réel. Donc, je pense que le secteur de la microfinance a beaucoup appris de ces crises, est en train d'apprendre en permanence de ces crises-là. Et ça, c'est le côté, je pense, tout à fait positif de l'évolution aujourd'hui de la microfinance. Mais voilà, c'est vrai qu'il ne faut jamais oublier que le microcrédit, c'est un outil. Et un outil, c'est, moi, je prends toujours l'image du marteau. Hein, le marteau, vous pouvez construire une superbe maison, un superbe meuble avec, et puis vous pouvez vous blesser, vous retrouver à l'hôpital. Et donc, voilà, si on ne sait pas utiliser correctement cet outil, si on ne sait pas l'adapter aux populations auxquelles on veut, avec lesquelles on veut travailler, parce qu'on ne travaillera pas de la même manière quand on travaille en zone rurale, qu'en zone urbaine, qu'avec des femmes, qu'avec des mendiants, qu'avec des pêcheurs, ou comme on l'a entendu. Hein. Et donc, c'est cette capacité d'innover, cette capacité de cibler les populations et de leur fournir des services adaptés qui sera le garant de la microfinance. Je crois qu'on a voulu être trop ambitieux. Je suis assez d'accord avec l'idée de dire que tout le monde n'est pas un micro-entrepreneur ou un entrepreneur potentiel. Par contre, je pense qu'il y a une dimension sociale qui n'est pas négligeable. Moi, j'ai vécu et travaillé dans des bidonvilles aux Philippines. Et même si j'étais assez critique parfois sur le type d'activité qui était financée, c'était les sari-sari stores, les petites boutiques où on vend des cigarettes à l'unité, du Coca-Cola, etc. Néanmoins, au-delà de l'impact économique qui effectivement paraissait assez limité, il y avait une dimension sociale très importante. C'est-à-dire que vous permettez à des gens qui sont exclus du système économique d'être à nouveau actifs et d'avoir une vie sociale, d'avoir des gens qui viennent acheter chez eux, etc. Alors, ils vont peut-être pas gagner beaucoup d'argent, mais en attendant, ils vont avoir une forme de reconnaissance dans le bidonville parce qu'ils ont, voilà, c'est celle qui tient la petite boutique, etc. C'est difficile à évaluer, cette dimension-là, cette reprise de confiance qu'on peut avoir parce qu'on nous fait confiance. Faire crédit, c'est je crois dans votre projet. Et des gens à qui, pendant, qui se sentent exclus et à qui, finalement, on n'a jamais pu faire confiance, eh bien, leur donner un crédit, leur dire je crois dans ton projet et je crois dans ta capacité à me rembourser, c'est énorme au niveau, je dirais, psychologique et au niveau de la confiance en soi. Et ça, à mesurer, c'est quand même assez difficile.
Mais Yon Salé, ce que décrit Philippe Guichandu, c'est une action sociale, c'est de l'assistance sociale plus que de l'assistance financière ou autant que... Non ?
Alors, je ne crois pas, non, que ce que décrit Philippe soit de l'assistance sociale. La microfinance a une dimension sociale qui est claire dans la mesure où elle vise un public qui jusqu'à a été exclu du système financier, qu'elle va souvent coupler au crédit financier des services non financiers, type formation, justement pour aider les gens à mieux gérer les entreprises qu'ils créent. Une des choses qui est intéressante à noter, on a parlé de l'impact limité de la microfinance. Bon, la microfinance est un outil financier parmi d'autres à disposition des personnes pauvres. Ça rend l'évaluation de son impact extrêmement difficile. En revanche, ce qui est sûr, c'est que dans son caractère un peu institutionnel, il peut permettre, par exemple, à des femmes qui seraient de fait exclues des systèmes traditionnels de crédit, d'accéder au crédit. Et on peut raisonnablement considérer que 50% des entrepreneurs, pour le coup, sont des femmes. Et donc, on va réussir à, effectivement, permettre à des entrepreneurs de s'épanouir en leur offrant du crédit.
Cyril Fouillet, je voudrais que vous reveniez sur cette crise de l'Andhra Pradesh que vous évoquiez tout à l'heure. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette région de l'Inde avec le microcrédit ?
Alors, si on poursuit l'exemple de tout à l'heure, des clients qui ont du mal à rembourser un microcrédit dans un contexte où les institutions de microfinance se font concurrence pour placer du crédit, parce que ça a été le cas dans pas mal de régions dans le monde quand même, poussé notamment par une partie des investisseurs. Voilà, pareil, chez les investisseurs, on peut aussi, enfin, il y a aussi une très grande diversité.
C'est une mise en cause directe de Philippe Guichandu ?
Pas du tout. Non, bien au contraire, bien au contraire. Et c'est d'ailleurs un point que je voulais souligner après. Enfin, vous avez des acteurs qui s'impliquent sur le terrain et qui ont surtout une vision, en fait, de l'intégration du microcrédit très plurielle. La question de l'émancipation d'une population, la question de la lutte contre la pauvreté, si on peut utiliser ce terme-là, va pas se faire avec un seul outil. Hein, lorsqu'on
non,
propose...
mais revenez à la crise de l'Andhra Pradesh.
Alors, la crise de l'Andhra Pradesh, c'est une accumulation, en fait, de crédits. Les institutions de microfinance vont proposer, en fait, un crédit à une personne qui a du mal à le rembourser. Donc, elle peut rembourser son premier crédit avec le second. Et ainsi de suite. Et on rentre comme ça dans une espèce de spirale jusqu'au jour où l'institution de microfinance, en fait, veut véritablement récupérer son argent. Et à ce moment-là, on est quand même face à des banquiers qui peuvent, avec des hommes de terrain, utiliser du harcèlement moral, etc., voire physique, pour récupérer leurs gains. Et la population s'élève contre ça. On a affaire à une crise. Plus personne ne rembourse. Il suffit que le gouvernement évente de ces pratiques-là pour
donc
aussi
ça,
fermer
ça,
les agences.
Ça, c'est ce qui s'est passé en 2010 en Inde.
Tout à fait.
Dans l'Andhra Pradesh. Exactement. Avec des morts.
Oui. Oui, on peut dire que certaines personnes se sont suicidées pour ne pas avoir affaire à la honte du non-remboursement. Parce que ne pas rembourser sa dette peut conduire à une pression sociale extrêmement forte.
Ouais. Philippe Guichandu.
Oui, moi je voudrais, alors sur cette histoire liée au suicide, je pense qu'il faut bien prendre conscience que, en général, c'est des gens qui ont accès à des sources de financement qui sont très variés, qui ne sont pas que liés aux institutions de microfinance. Je crois qu'il y avait une étude qui montrait qu'à peu près 54% des gens étaient endettés à travers les usuriers, parce que Cyril a mentionné les formes informelles, mais dans la finance informelle, vous avez les usuriers. Donc moi, j'ai vécu aux Philippines. Aux Philippines, il y a le 5-6, vous empruntez 5 le matin, vous remboursez 6 le soir, 20% de taux d'intérêt par jour. Et donc, voilà, donc on est dans un phénomène complexe où les gens ont effectivement plusieurs sources pour essayer de trouver des moyens d'avoir accès à des revenus. C'était évident que là, on a une faiblesse du système dans la mesure où les institutions n'ont pas été en capacité de comprendre quel était le niveau d'endettement de ces populations-là. On n'a pas pu parce qu'il n'y avait pas des centrales de risque, etc. Et donc, on a fait un prêt à une personne qui ne devait pas avoir accès à ce prêt-là parce qu'il était déjà trop endetté. Et ça, c'est un vrai enjeu aujourd'hui, notamment dans les marchés qui sont, entre guillemets, un peu saturés.
Et on s'allait.
Oui, alors, dans cette crise de l'Andhra Pradesh, je pense qu'il est important de ne pas oublier la dimension politique, puisqu'en Inde, en fait, il y a des programmes publics d'accès au crédit qui sont souvent conditionnés à un vote en échange, et les institutions de microfinance venaient faire concurrence, en fait, à ces programmes. Et c'est, en fait, la classe politique qui a déclenché la crise du remboursement en disant aux gens de d'arrêter d'embourser les institutions de microfinance.
Alors, on a parlé des Philippines, de l'Inde, on reste en Asie, mais nous partons au Cambodge, dans le village de Prek Takong, à quelques kilomètres du centre de Phnom Penh, où la population bénéficie parfois du microcrédit. C'est un reportage Écho d'ici, Écho d'ailleurs, signé Anne-Laure Poré.
Dans le village de Prek Takong, les maisons sur pilotis s'alignent le long d'une route caoutchouteuse au bord d'un lac. Elles sont faites de bois et de morceaux de tôle qui semblent bien fragiles face aux lotissements en construction dans le quartier. Ici, beaucoup de gens vivent des liserons d'eau qui sont cultivés sur le lac et sont ensuite vendus sur les marchés de la capitale. Pauvreté et précarité font des habitants de ce village une population ciblée par les organismes de microcrédit. À l'exemple de Peer, une agricultrice de 45 ans qui a eu recours à un emprunt de $500 investi dans des équipements pour ses cultures. C'est l'organisme de microcrédit qui est venu à elle.
Ils viennent distribuer des posters sur lesquels sont affichés les montants et leurs numéros de téléphone. Si on veut emprunter, on les appelle, ils viennent voir la maison, la terre. S'ils sont d'accord, ils nous téléphonent pour qu'on aille prendre l'argent. L'important, c'est ce qui est à nous, c'est quel commerce on tient. Ils observent ce qu'on fait avant de prêter, ils ne vous laissent pas juste emprunter comme ça. Grâce à mes revenus, j'ai de quoi manger. Je n'ai plus besoin d'emprunter à d'autres pour vivre.
Pour obtenir ce crédit, elle n'a donné que sa carte d'identité. En revanche, Horn, lui aussi agriculteur, a déposé son titre de propriété en garantie. Et il a tout perdu à la suite de pluies qui ont pourri ses légumes.
Je leur ai expliqué mes pertes, ils s'en fichaient, ils ne s'intéressaient qu'à l'échéance de chaque mois. Je leur ai dit, mais ils venaient quand même chercher l'argent. Si l'échéance tombait le 10 du mois, ils venaient le 10. Quand j'ai tout perdu, que je ne pouvais plus rien faire et qu'ils avaient mon titre de propriété chez eux, j'ai décidé de vendre ma maison pour les rembourser.
Ia, une voisine, a connu les mêmes déboires avec son tout premier microcrédit. Elle avait tenté d'élever des cochons, mais ils sont morts. Cependant, elle a réussi à rembourser. Résultat, l'organisme lui a proposé d'emprunter de nouveau en doublant la somme. Avec l'argent, Ia a décidé d'acheter un terrain.
Quand on a de l'argent, quand on a quelque chose à soi, on espère davantage aller de l'avant. On pense que quand on possède quelque chose à soi, on a un sentiment que c'est déjà ça d'acquis. Ça nous donne confiance. Au fond de mon cœur, j'envisage. Enfin, c'est une idée. Je me dis que quand j'en aurai fini avec cette dette, j'emprunterai $1,500 pour acheter quelque chose que je garderai. Et après, quand j'aurai remboursé l'année suivante, je redemanderai de l'argent pour construire une maison.
C'était un reportage signé Anne-Laure Poré à Phnom Penh. Vous êtes sur RFI, Écho d'ici, Écho d'ailleurs. Nous parlons de l'intérêt et des limites du microcrédit avec trois invités. Philippe Guichandu de la Fondation Grameen Crédit Agricole, Cyril Fouillet, professeur d'économie à l'école de management d'Angers, et Yon Salé du comité Cerise. Comment réagissez-vous, Cyril Fouillet, à ce reportage cambodgien d'Anne-Laure Poré? Il y a quand même des risques à s'endetter auprès des organismes de microcrédit.
Au départ, on parlait de cautions solidaires. Là, on a face à nous des cautions physiques, qui sont enfin des collatéraux. On demande de gager le prêt sur sa maison, sur ses terrains, etc., etc. Donc, on est quand même loin de l'innovation du départ de la microfinance. Aujourd'hui, il y a véritablement un secteur qui confond des acteurs qui développent des travaux fins sur le terrain, qui prennent le temps de prendre toute la complexité des questions dans certains milieux de ville avec la création de crèches, la création de formations, en fait, hein, pour mener des entreprises, pour créer de l'entreprise. Et à côté de ça, vous avez véritablement un secteur de la microfinance qui est pollué par la commercialisation et qui est tout simplement du crédit à la consommation. Dans énormément de villes en Amérique latine, les cartes de crédit à la consommation se multiplient dans les poches de la population.
Des cartes de microcrédit à la consommation.
Voilà, tout à fait, oui. Et on est rien de différent avec le crédit à la consommation que l'on peut trouver en France. Voilà, il n'y a aucun projet d'entrepreneuriat derrière, aucun projet de lutte. On est dans un secteur bancaire, en plus assoupli, avec moins de ratios, pas de crédit bureau dans certains cas, etc. Donc des risques de surendettement extrêmement élevés. C'est toute la difficulté du secteur de la microfinance.
Philippe Guichandu, on assiste à une explosion du microcrédit au Cambodge. Vous-même, vous y êtes investi. Comment endiguer cette vague de microcrédit sauvage? Est-ce que vous y contribuez pas un peu, d'ailleurs?
Alors, si vous voulez, nous, on est très vigilants dans le choix des institutions de microfinance avec lesquelles on va travailler. Donc, on va effectivement être très sensible à ce qui était expliqué par rapport à ces institutions qui auront une démarche très commerciale et celles qui seront dans une approche beaucoup plus sociale et beaucoup plus responsable. On fait systématiquement une double analyse à la fois financière et sociale, grâce notamment aux outils qui ont été développés par Cerise pour essayer d'éviter. Donc, nous, on a des investissements aujourd'hui dans 4 institutions de microfinance.
Combien est-ce que vous y avez investi au total?
Aujourd'hui, on a un encours de à peu près 6 millions d'euros dans ces 4 institutions. Nous, on va pas, aucune d'entre elles ne prennent des titres de garantie comme sur les biens de ces populations. On est beaucoup dans des groupes de solidarité ou dans du prêt individuel où il n'y a pas de garantie qui est demandée. Donc là, on est très vigilant là-dessus. Moi, la petite réflexion que j'avais envie de dire par rapport au témoignage de cette personne qui a dû vendre sa maison,
Et qui
a tout perdu, c'est de dire qu'aujourd'hui, il y a de vraies questions aussi sur tout le développement de l'assurance, et d'essayer de faire en sorte que, justement, les gens puissent être couverts contre ce type de risque. Nous, on travaille beaucoup plus sur les questions liées à l'assurance agricole, qui doit permettre effectivement, parce qu'une des grosses difficultés du financement des paysans et de l'agriculture, c'est qu'effectivement, ils sont très liés aux risques climatiques. Et aujourd'hui, avec les changements climatiques, c'est un vrai enjeu. Et donc, on pense que le crédit seul n'est pas suffisant et que avoir un produit d'assurance qui permettrait de faire en sorte que si jamais il y a une mauvaise récolte, la personne puisse continuer à rembourser son prêt et est une garantie supplémentaire. Donc, on est très vigilant là-dessus, mais c'est évident que malheureusement, il existe des gens qui rentrent dans le secteur de la microfinance aujourd'hui, non pas avec un objectif, je dirais, social et responsable, mais avec un objectif assez commercial et avec les dérives que ça entraîne, parce qu'effectivement, on va aller vers quelque chose qui va se rapprocher beaucoup plus de « on est là pour faire de l'argent, il ne faut pas avoir peur des mots ». Mais c'est pas... Je voudrais que les auditeurs comprennent bien que c'est une partie des acteurs de la microfinance. C'est pas tous les acteurs.
Cyril Fouillet, je vois réagir.
Mais c'est une partie de la microfinance qui s'accentue. D'après les dernières données du Mix Market que vous citiez tout à l'heure, la quasi-totalité de l'activité microfinancière au niveau mondial se fait à travers des institutions à but lucratif. Ce sont les deux tiers des clients, sont servis par des institutions à but lucratif aujourd'hui. Et c'est quelque chose qui se confirme, puisque le taux de croissance des structures à but lucratif est deux fois supérieur à celui des ONG.
Yann Salé, est-ce que le comité Cerise et les autres institutions de ce genre arrivent à prendre pied dans ce secteur lucratif?
Alors absolument, parce que c'est pas parce qu'on est lucratif qu'on va pas considérer ses clients. Et d'ailleurs, énormément d'institutions de microfinance se rendent compte que ce qui est primordial pour elles, c'est de vraiment bien comprendre les mécanismes financiers qui sont mis en place par de leurs bénéficiaires. En Cambodge, par exemple, il y a l'exemple d'une institution qui s'appelle AMK, qui a vraiment mis de côté tous les a priori sur ses clients et rentré dans le détail vraiment de comment est géré l'argent au jour le jour, parce que c'est ça l'enjeu pour les personnes pauvres, et au point d'innover sur les produits, proposer des produits qui n'ont plus d'échéance fixe pour le remboursement. Et ils se sont rendus compte que les remboursements se passent très très bien pour autant. Et ces produits qui sont extrêmement appréciés évidemment par les populations, et ça permet d'aller chercher des gens qui sont très fragiles sans les mettre en difficulté. Par ailleurs, au niveau des initiatives qui existent, on peut citer l'initiative de campagne de protection des clients qu'on appelle la Smart Campaign, qui sont 95 bonnes pratiques vraiment qui ont amené les institutions à mettre les clients au cœur de leur manière de fonctionner, avec des systèmes sur la prévention du surendettement, la transparence, le mécanisme de résolution de plaintes, etc. Et ça peut aboutir, par exemple, en ce moment en Ouganda, il y a une loi qui est en train d'être votée, qui inclut des paragraphes de la campagne de protection des clients, et qui vont devenir en fait partie intégrante de la loi auxquelles toutes les institutions devront se conforter.
Alors, quand on reçoit un microcrédit, il faut le rembourser. Et il y a souvent des taux d'intérêt qui sont parfois élevés. Au Mali, on peut par exemple voir des taux d'intérêt proches de 18%. Mais en France aussi, le microcrédit existe et les taux d'intérêt ne sont pas négligeables. Exemple avec Idrissa Conté, un bénéficiaire du microcrédit d'origine malienne, qui a monté à Montreuil, dans la banlieue parisienne, une école de langues africaines, AfriLang, au programme Traduction, Interprétariat et Cours. On peut apprendre le Peul, le Swahili, le Bambara. Idrissa Conté a récemment décidé d'ajouter une plateforme d'apprentissage en ligne, mais les fonds lui manquaient. Il s'est donc résolu à faire appel à une société de microcrédit. C'est un reportage Éco d'ici, Éco d'ailleurs, signé Louis-Valentin Lopez, dans les locaux.
Une stature imposante, une voix douce et grave, Idrissa Conté reçoit dans son petit bureau du troisième étage. Sur l'écran de son ordinateur, une ébauche de site internet. C'est la future plateforme d'e-learning qui permettra de s'initier aussi bien au Peul qu'au Swahili.
Il fallait juste trouver des frais, faire une avance en tout cas au prestataire donc, pour commencer le travail.
L'entrepreneur décide donc de contacter l'ADI, l'Association pour le droit à l'initiative économique. Son projet convainc. Sur les 10 000 euros de crédit possibles, Idrissa Conté en reçoit 6 000.
C'est divisé en deux parties. Une partie où on n'a pas d'intérêt, en fait, c'est un prêt à taux zéro, c'est un prêt d'honneur. Donc voilà. Et l'autre moitié, par contre, le taux d'intérêt s'élève entre 5 et 7%, voilà, je dirais.
Et du début à la fin du remboursement de son prêt, le débiteur n'est pas livré à lui-même. Hein. Il peut faire appel à des conseillers, dont 1300 bénévoles.
Récemment, moi, j'avais des questions juridiques et j'ai appelé donc le conseiller.
L'accompagnateur d'Idrissa Conté s'appelle Thomas Coffinet. Il est lui salarié de l'ADI. Il reçoit dans les bureaux parisiens de l'association. C'est entre ces murs qu'il a rencontré pour la première fois Idrissa. Le contact est tout de suite très bien passé.
Moi j'ai rencontré Idrissa à la suite d'une réunion collective qu'on fait tous les mardis matins ici à l'agence. Alors on a avancé rapidement avec Monsieur Conté parce qu'il est quand même très autonome. Il a un parcours de vie assez riche, même s'il est jeune. Il est originaire d'Afrique, il est venu étudier en France, dans une école très réputée.
Alors à chaque fois qu'un entrepreneur souhaite obtenir un microcrédit, cela se passe de la même façon.
On arrive à avoir assez rapidement avec eux la constitution d'un prévisionnel. Donc le prévisionnel, c'est de mettre en relation le chiffre d'affaires et les charges que l'entreprise va avoir. Ça nous permet de voir rapidement si l'entreprise va être rentable et sous quel horizon.
Un portrait robot détaillé du projet donc, et dès qu'il est validé, le prêt est effectué. L'avantage selon Thomas Coffinet, c'est que l'on n'a pas besoin d'avoir un compte bancaire bien rempli pour accéder au microcrédit, mais il y a aussi un inconvénient.
Un inconvénient, c'est celui du taux d'intérêt qu'on pratique, puisqu'il est aux alentours de 7% sur la majorité de nos prêts.
7% contre 2 ou 3% pour les banques traditionnelles, à rembourser rapidement aussi. En moyenne, à l'ADI, ce remboursement dure 48 mois. Idrissa Conté, lui, espère avoir rendu le dernier euro d'ici 2 ans.
Louis-Valentin Lopez signait ce reportage. Alors, les taux d'intérêt sont-ils généralement très élevés, Cyril Fouillet, dans le microcrédit ?
Question complexe. Au-delà des taux d'intérêt qui sont en tout cas affichés par les institutions de microfinance dans beaucoup de pays, il faut aussi prendre en compte les coûts cachés. Tout à l'heure, on parlait d'assurance. Beaucoup de personnes ne souhaitent pas avoir d'assurance. Pour des raisons multiples. Et vous avez aussi des frais d'inscription, des frais de retard lorsque vous êtes un petit peu en retard sur votre remboursement, alors que les activités économiques dans beaucoup de zones rurales à travers le monde ne peuvent pas être en fait lissées sur l'année. Hein. Vous avez des pics, vous avez des rentrées. D'autres moments, vous n'avez pas du tout de rentrée dans l'année, donc ces périodes de remboursement sont compliquées. Et si vous êtes en retard, vous avez des pénalités très fortes. Donc au-delà vraiment du taux d'intérêt, il y a toutes ces questions de coûts cachés hein, qui peuvent vraiment faire monter la facture.
Vous faites monter la facture avec les coûts cachés, Philippe Guichondu ?
Alors nous, on n'a pas de coûts cachés, mais ce qui est important à dire sur quand même la notion de taux d'intérêt, c'est de comprendre, parce qu'on l'a assez peu abordé, hein, le fait que un des objectifs aussi de la microfinance, c'est de construire des institutions de microfinance qui sont pérennes sur du long terme. Hein, et donc c'est vrai que les taux d'intérêt vont être là pour financer les coûts de structure, mais aussi financer l'inflation, financer les pertes, financer la croissance de ce secteur. Et la microfinance est une le microcrédit est censé être quelque chose de très coûte de l'argent en termes de ressources humaines parce qu'en fait, il faut être présent sur le terrain. On va, à l'inverse du banquier traditionnel, les agents de crédit vont rencontrer les clients, on l'a entendu, vont visiter, ça prend donc si vous êtes
ce sont des structures très lourdes, en fait.
Donc, c'est des structures relativement lourdes, et donc ça a effectivement un coût. Et ce coût-là fait qu'effectivement, on a des taux d'intérêt qui sont relativement élevés. Ensuite, il faut jamais oublier, par contre, une chose, c'est qu'on est sur des petits montants et sur des courtes durées. Hein. Donc, je veux dire, certes, le taux effectif global peut paraître élevé. On va dire, par exemple, en Afrique de l'Ouest, il faut savoir que le régulateur a limité le montant à 24%. Mais si vous prenez, nous, on a des prix moyens donc par des institutions à 500 euros. 24%, ça paraît énorme, mais 24% sur 3 mois, ça fait un coût de 20 euros. Sur 6 mois, ça fait 35 euros. Et sur 12 mois, ça fait 65 euros. Et ce qui est important, c'est de comprendre en quelle mesure ce coût-là va être... est-ce que le micro-entrepreneur aura la capacité de rembourser cette différence qui est finalement relativement faible?
En deux mots, Yot Saleh, parce qu'on arrive à la fin de l'émission, est-ce que ces taux d'intérêt sont normaux ?
Les taux d'intérêt en microfinance sont extrêmement tirés, hein, puisqu'il y a énormément d'activités. Il y a, comme on l'a dit, il y a des marchés, il y a beaucoup de compétition. Donc les institutions sont les plus efficaces possibles. Et en règle générale, les taux sont aussi bas que possible. Après, la question est vraiment sur la transparence. Hein, les gens doivent comprendre ce qui est derrière.
Eh bien, c'était le mot de la fin, le mot transparence, qui s'impose très souvent dans cette émission et dans les débats économiques. Merci à vous trois, Cyril Fouillet, Yon Saleh, Philippe Guichandu, d'avoir participé à cette émission, de nous avoir éclairé sur ce qu'est le microcrédit. Victor Ouvrard était au pupitre technique, derrière la vitre, à la réalisation. Et nous nous retrouvons la semaine prochaine pour de nouvelles aventures économiques.
Écho d'ici, écho d'ailleurs, sur RFI.